Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Coq à l'âne, numéro 712, mine de rien, avec le retour du frère de la revanche. Jean Cointe est parmi nous aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'on ne t'avait pas eu, mon petit Jadot. Il paraît que tu étais séquestré dans ton commerce.
Tout à fait, oui.
Et que tu faisais des heures supplémentaires le vendredi.
Tout à fait. Tous les jours.
Comment ça, tous les jours?
C'était 8h du matin, 8h du soir.
Non, bon, dans pas longtemps, on va le plaindre. Bon, en tout cas, Jeannot, ça fait plaisir de te retrouver. Bruno André est avec nous, salut.
Bonjour à tous.
Nous avons aussi...
En pleine forme.
Bien sûr, Michel Roussel qui est là. Salut Michel.
Bonjour à tous.
Et notre invité, Christian Hubo. Salut.
Bonjour.
Christian,
salut.
Ça va?
Bonjour.
Christian, conseiller départemental du canton Gap 3, bien sûr, délégué, parce qu'il est, délégué. Ah bah, il ne fait pas que être comme ça, hein. Non, il a du boulot. Il fait délégué à l'agriculture, aux forêts, au pastoralisme, au circuit court, et en plus de ça, il doit s'occuper de sa commune.
Tu fais des heures supplémentaires aussi.
Du côté de Pelletier.
Voilà. Il a fait également des courts-circuits et des circuits courts.
On va pas commencer, hein, Jeannot. On va pas commencer. Nous avons un premier sujet, puisque tu es responsable, en tout cas tu es délégué au pastoralisme. Parlons-en du pastoralisme. Les attaques du loup en augmentation un an sur les Hautes-Alpes, à l'occasion du comité départemental loup et pastoralisme qui a eu lieu vendredi dernier, qui était présidé d'ailleurs par la préfète Martine Clavel. Le bilan de l'année 2021 était tiré avec certains chiffres clés et bah, on est passé de 369 attaques en 2020 à 411 en 2021, soit une augmentation grosso modo de 15%. Alors, on a vu en revanche que le nombre de victimes avait un peu baissé. Il y avait peu d'écart, c'est-à-dire 1273 en 2020 et 1299 en 2021. Donc, c'est à peu près la même chose pour moins de victimes et plus d'attaques. Les éleveurs indemnisés, bien sûr. D'ailleurs, ça représente quand même au total 6,1 millions d'euros qui ont été investis en 2021 au bénéfice de 603 éleveurs ou groupements d'éleveurs. Ça fait beaucoup d'argent, mine de rien. Mais la question,
c'est que les indemnités, ça. Hein.
Oui. La question que je me pose, c'est que, bah, comme régulièrement on en parle dans le Coq à l'âne, Christian, on s'en sortira jamais du loup, en fait.
Ah ben, en ce moment, non, ça ne sortira jamais, puisque, comme l'a dit Bruno, c'est que les indemnités, c'est 35 millions d'euros au national, pour l'instant.
Oui, oui.
Et le loup ne fait que proliférer. Parce que quand on nous annonce toujours et encore 500, 550 loups...
Oui, oui, c'est les chiffres qu'on annonce régulièrement depuis des années.
On peut mettre un zéro de plus.
Oh, tu exagères un peu, quand même.
Non, je ne pense pas. Pas comme l'a dit Landry dans une conférence à Genève... où il a annoncé que le conseiller départemental du département des Hautes-Alpes, Hubo, avait dit qu'il y avait 50 000 loups. Non.
Ah non,
il
quand
a,
même pas.
Là, il y avait zéro et moi j'en mets un.
Ah d'accord, okay.
Là, on tombe d'accord.
On coupe la poire en deux. Donc on s'en sortira jamais, Bruno?
Non, on s'en sortira pas parce qu'on est dans une impasse complète. Quoi. Depuis 20 ans, on s'est battu. Alors on s'est battu. Au début, on a été pris pour des rigolos hein, dans les Hautes-Alpes quand on a crié au loup. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les départements sont concernés, que le loup a colonisé et colonise l'ensemble de la France.
50 départements aujourd'hui.
Et que moi, je me rappelle, je l'ai cité l'autre fois quand il y avait Gérard Tenoux ici, je me rappelle avoir discuté avec Pierre Rigaud, le naturaliste bien connu, qui nous disait que sur les Hautes-Alpes, il y avait la place pour avoir 5 ou 6 meutes de loups. Mmh. Aujourd'hui, on a plus de 20 meutes de loups établies. Donc, le constat qu'on fait, on peut mettre des chiffres, des zéros ou pas, on s'en fout. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation de loups par rapport à l'activité du pastoralisme et de l'élevage et du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, ça impacte aussi le tourisme. Et ce qu'il faut qu'on voit, il faut que l'État prenne ses responsabilités et qu'il nous dise ce qu'elle veut faire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est clair. Alors, que ce soit le syndicalisme, que ce soit l'ASPA qui est exclu par le préfet de l'Hérault, du groupe Loup ou autre, on s'en fout finalement. Mais il faut nous dire ce qu'il faut faire et ce que l'État veut faire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On voit bien qu'on est face au mur. On constate une situation d'échec. Il y a de plus en plus de loups, plus en plus d'attaques. Ça coûte un pognon de fou, un pognon de dingue.
Un pognon de dingue.
Un pognon de dingue quand même. 35 millions d'euros, ça nous impacte. J'en ai encore parlé avec la vice-présidente de la région. Ça impacte énormément le milieu économique parce que Sur l'agriculture, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On met encore le pognon du loup dessus. Mmh. Donc du coup, qu'est-ce qui reste pour faire de l'économie et du développement agricole? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Moi, la première des choses à faire, c'est le coût du loup, c'est 35 millions d'euros. Qu'on le mette, qu'on le fasse porter...
Sur le budget d'environnement.
À l'écologie, au ministère de l'écologie, mmh. sur l'environnement. Parce que c'est eux qui le veulent. Nous, pour l'agriculture, c'est la double peine. On a les attaques et on manque de financement. Moi, c'est une situation insupportable.
On dit, je vous entends, hein, et qu'il y en a de plus en plus, mais on pourrait pas avoir un comptage vraiment pointu, exact, avec, je sais pas moi, une association qui serait en parallèle et qui ferait un vrai comptage et pas forcément un comptage d'État qui...
Personne n'est capable de les compter.
C'est quand même difficile, il faut quand même
c'est
pas...
Difficile.
Vous avancez des chiffres et vous n'en savez rien non plus alors. Parce qu'il y en a qui disent 500, toi tu dis 5000, mais on n'en sait rien puisque tu dis qu'on ne peut pas les compter.
C'est très difficile à compter. L'autre jour, on a passé sur le comité loup plus de 2 heures à parler de la problématique du chien de protection. Mais c'est pas le chien de protection qui est une problématique, c'est le loup.
Eh ben oui.
Parce que le chien de protection, ben évidemment, il fait son job. Mm. Et après, on dit, ben, le chien, il va courir après un randonneur, un vététiste... le chien il fait son boulot. Mmh. Pendant 2 heures, on a parlé de ça.
Après, on prend des mesures homéopathiques. Tu sais qu'on doit prélever à peu près 118 loups par an, etc. Et on sait que qu'est-ce qui se passe au niveau des préfectures? Eh ben, on déclenche un tir de prélèvement où on envoie les lieutenants de louveterie qui a en dernier recours au bout de X attaques et tout. Mais prenons le problème à l'envers. Disons, on a droit à prélever 110-120 loups. Eh bien, s'il y a des attaques, on prélève des loups. Et si, dès qu'on arrive au quota, eh bien, on se met autour de la table et on voit ce qu'on fait. S'il y a une grosse pression de prédation, on continue de prélever. Sinon, on arrête. Mmh. Mais là, ce qu'on fait, c'est que les préfets, ils essayent d'arriver au 31 décembre en se rapprochant le plus possible du quota de loups. Mais il ne faut pas aller trop vite sur le prélèvement, alors que des fois, il y a urgence de prélever. Il y a vraiment urgence quand il y a des attaques violentes sur un secteur, ben il faut prélever plus pour calmer les affaires. Mmh, mmh. Non seulement pour calmer les éleveurs, mais aussi pour montrer aux prédateurs qu'il est le malvenu sur ce secteur-là. Mmh. Et on l'a très mal éduqué, le loup. On l'a surprotégé au départ, on l'a très mal éduqué. Aujourd'hui, il a pris le pas sur l'activité humaine.
Oui, d'un autre côté... On peut pas l'éduquer, hein. C'est un animal sauvage.
Si, il fait
ce qu'il veut. Hein.
Attends, si,
la preuve, tu dis qu'on le retrouve un petit peu partout dans des départements où il n'était pas il y a quelques années. Hein.
Si oui, mais tu débat, là, il est éduqué, va.
Ah, bah oui.
Tu vas voir que dans certains départements.
Tu vas te faire des copains, toi.
J'éduque, moi.
Tu vas te faire des copains.
Dans certains départements, la chose va vite être réglée.
Bien
d'abord,
sûr,
parce qu'ils ont. Sur les territoires de plaine, c'est beaucoup plus facile de voir du loup ou le voir arriver de loin. Nous, on a un territoire de montagne avec beaucoup de zones boisées et vallonnées à un relief accidentel. C'est compliqué de le prélever, mais dans certains départements, je te garantis que ça va vite être réglé.
Ah, juste sur le comité loup, l'autre jour,
oui.
la question aujourd'hui qui se posait, c'était comment on peut éduquer les chiens pour qu'ils fassent la différence entre un loup, un chien gentil, un chien méchant. Mmh. Non, mais j'ai dit, on est tombé sur la tête, et à un moment donné, il faut revenir sur terre, quoi.
On va changer de sujet, parce que c'est un sujet où on pourrait rester pendant des heures, hein. Tu l'as dit, hein, t'as passé 2 heures à parler
du chien.
Et on va parler de cette vague d'optimisme qui déferle sur le monde en ce moment, en nous annonçant en quelque sorte la fin de l'épidémie. On entend beaucoup dire que nous sommes passés à côté de la catastrophe. Attention, moi je dis pas trop d'emballement, hein. Il faut raison garder et sa bouche point trop ouvrir. C'est d'ailleurs le message du médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre qui s'appelle Jérôme Marty et qui a dit ça, et écoutez-le.
À tous ceux qui aujourd'hui, et je le vois de plus en plus encore une fois, font des prévisions en affirmant quasi que ça y est, on en est sorti, embrassons-nous Folleville, c'est terminé, excusez-moi, mais ça fait la 6e fois qu'on dit ça, quoi. Chaque fois ce virus nous trompe, et chaque fois qu'on l'attend à droite, il passe à gauche, chaque fois qu'on l'attend à gauche, il passe à droite, et donc c'est toujours difficile de prévoir. Moi je dis, avec le plus grand sérieux, je ne sais pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si on n'aura pas un autre variant. Et donc, je dis aux gens, continuez à vous vacciner, parce que le vaccin, c'est la meilleure chose pour lutter contre les formes graves. Et surtout, c'est la meilleure chose qui va permettre d'attendre qu'on ait enfin un traitement à large spectre qui puisse permettre de lutter contre tous les coronas.
Alors, Louis Albran, qui est avec nous normalement au bout du fil. Bonjour, Loulou.
Oui, bonjour Thierry, bonjour à
tous. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme Marty ?
100% d'accord, 100% d'accord. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter, on ne sait pas. Mais je pense néanmoins que le voter cette loi de le pass vaccinal, ouais, à mon avis, ce n'était pas indispensable.
Utile.
Non, ça, ce n'était pas indispensable. Et hier, le discours du Premier ministre était très mauvais. Quand il a dit que le variant Omicron était dangereux, etc.
Non, il est, en fait, il est beaucoup moins dangereux, visiblement, oui, d'après ce qu'on entend.
Il a fait l'absus, d'ailleurs.
Non, le seul risque, c'est ce qu'a dit mon confrère avant moi, là, c'est que l'apparition d'un nouveau variant.
Oui, ça, c'est toujours pareil.
Si ça restait en l'état, on pourrait largement maintenant simplifier les mesures.
D'ailleurs, on a le sentiment quand même que si on lève un petit peu les restrictions, là, en ce moment, c'est parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que le Delta commençait à affaiblir et que l'Omicron n'avait pas autant d'impact que le Delta.
Les élections sont proches.
Je t'écoute.
Ils se rendent aussi compte que les gens en ont marre. Hein. Les gens sont fatigués de passer à autre chose. Voilà.
Des traitements à venir, on en parle beaucoup.
Oui, il y a Pfizer qui a sorti un traitement, mais qui n'a pas encore été vraiment expérimenté. Il n'est pas encore dans le marché. Non, les traitements, il faudra attendre. À mon avis, encore longtemps. Vous savez, on ne trouve pas forcément un traitement contre un virus. On ne l'a jamais trouvé vraiment efficace pour l'Ebola. On ne l'a jamais trouvé vraiment efficace pour le sida. Bon, le sida, ça limite les dégâts, mais enfin, on est obligé de prendre ces traitements très, très lourds pendant des années.
Désolé, Louis, mais je crois qu'il y a quand même un traitement que l'on donne en préventif aux immunodéprimés. Ma fille travaille au CHU à Grenoble. Il me semble bien qu'il y a un traitement préventif qui existe, mais qui coûte très cher aujourd'hui.
Pour ceux qui ont une immunité très affaiblie, on arrive à la stimuler, à les mener à peu près au niveau des gens normaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'attraperont pas aussi le virus. Tu vois.
Non, moi, elle me parlait d'un traitement contre le Covid qu'on administrait aux immunodéprimés. Mais par contre,
oui, mais c'est pas un truc que tu trouves
cher
en pharmacie, en grand public.
Ça coûte très
oui,
cher.
D'accord.
Ça
non, là, on parle. Là, moi, je parle de traitements qui arrivent et qui seraient des traitements grand public, quoi.
Mais on commence à en voir arriver. Moi, je pense que ça va.
Et ben, c'est pour ça que je posais la question.
Parce qu'il en a parlé hier soir au Premier ministre.
Voilà. Et c'est pour ça que je posais la question
pense
à Loulou.
Que de toute façon, le vaccin. Maintenant, il y a 92%, je crois, de la population qui est vaccinée.
Ouais, ouais.
Et preuve est faite que même s'il y avait des mutations, ce vaccin serait toujours quand même actif contre un virus. Donc, il faut quand même être optimiste. Je pense que maintenant, on va pouvoir reprendre bientôt, j'espère, une vie normale. En vaccinant chaque automne les gens dits à risque, plus de 75 ans, etc. Voilà.
Oui, c'est-à-dire, en fait, rentrer dans une logique de vaccination comme la grippe
comme
aujourd'hui.
La grippe.
Quoi. Ceux qui auront les plus fragiles pourront, effectivement, tous les ans, au moment où Covid arrive, se faire donc une injection.
Une politique basée sur le volontariat.
Ah oui, après, suppose.
Contrairement à ce qu'on cherche à nous faire avaler.
Oui, je pense que le gouvernement va un peu l'obsession du vaccin, là, il va trop loin. Je pense même qu'il prend des risques au point de vue électoral en faisant ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à dire qu'ils vont trop loin. Et hier, le Premier ministre a été vraiment mauvais. On sentait vraiment
je sais que tu l'aimes beaucoup.
Non, c'est pas. Non, moi, tu me connais assez, ça. Je suis pas un excité politique, je suis pas un sectaire. La situation est difficile, je suis pas. Oh là là, non, non.
Tiens,
Il a été parfois bon, là hier il a été mauvais, ouais. Il a fait des lapsus, c'est un métier difficile. Hein,
oui, oui. Ce sera ma dernière question, qu'on cherche quelqu'un pour remplacer le professeur Raoult à l'IHU de Marseille, est-ce que tu as posé ta candidature?
Mais le professeur Raoult, oui, lui aussi a fait des erreurs, il n'a pas vu la dangerosité des médias. Voilà. Moi, je pense que les médias sont aussi dangereux que le virus.
Voilà.
Y compris elle peut.
Oui. je suis pas méchant avec toi. Méchant. Merci Loulou. Merci à toi.
Allez, voilà, bonne journée à tous. Bon courage. À bientôt.
À bientôt, bon, Loulou.
Ah,
sacré Loulou. On va se tourner vers l'Europe. Vous avez vu? Nous sommes à la tête de l'Europe. Enfin, c'est la France qui est à la tête de l'Europe.
Formidable.
Au Parlement européen, le débat a tourné mercredi dernier au débat électoral lors de l'intronisation d'Emmanuel Macron donc à la présidence de la Commission européenne. Vous avez suivi ça. Passe d'armes politiques où Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Manon Aubry pour la France insoumise et Yannick Jadot pour les Verts l'ont épinglé sur sa politique nationale. Alors, la question que bon nombre d'observateurs se sont posées est la suivante. Était-ce le lieu pour débattre donc de politique nationale? L'Europe entière a d'ailleurs été surpris de ces joutes verbales. La présidente du groupe socialiste au Parlement européen a remis d'ailleurs Jadot à sa place en lui disant que le Parlement, c'est pas une tribune pour la présidentielle. Et il y a un député européen qui m'a fait sourire qui s'appelle Guy Verhofstadt, qui est un ancien Premier ministre belge. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Membre d'un groupe qui s'appelle Renew Europe. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, je vous propose de l'écouter si je le retrouve, le temps de me mettre la main dessus. Le voilà.
La plupart de nos collègues français sont obsédés par des élections en France. Les élections présidentielles, apparemment, tous les attaques, M. Bellamy, M. Barrella, Mme Aubry, M. Comment il s'appelle, Bombard, vous avez presque oublié. Sauf de M. Jadot, je le comprends. Il est le seul candidat pour le moment ici, donc il est encore enthousiaste, hein, c'est le début de la campagne, donc alors on se trompe de temps en temps de discours, ça c'est possible. Moi je pensais que vous étiez antenne 2 ou TVA, quelque chose comme ça. Mais ceci dit, dont on a besoin, c'est pas de ces divisions pour le moment. Dont on a besoin pendant les 6 mois, c'est de l'unité européenne, parce que l'heure, M. Jadot, est grave pour l'Europe. On est menacé à l'intérieur, Kaczynski, Orban. On est menacé de l'extérieur par Poutine. Et à ce moment-là, il faut de l'unité, pas seulement en France, mais en Europe en général. Et donc, je vous dis, Monsieur le Président, fais ce que doit, advienne que pourra, parce que je peux vous dire, en Europe, et les citoyens en Europe, ils vous soutiennent, ils comptent sur vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, ça c'était donc une petite joute verbale. Une réaction, est-ce que c'était vraiment le lieu d'aller déballer nos états d'âme, nous, Français, sur la scène européenne? Je ne sais pas, votre avis?
Ah mais non, c'est pas le lieu. C'est même, moi je trouve que c'est les gens ne sont pas à la hauteur de leur mandat. C'est très grave de se tromper à ce point-là. Moi, je comprends pas. Moi, je suis profondément européen. Je pense qu'il faut qu'il y a l'unité de la France à avoir au niveau européen. Et c'est pas le lieu de.
Ils ont peut-être voulu faire un buzz. Ils ont peut-être voulu faire, comme on dit, un buzz politique, mais ça s'est retourné contre nous parce que là, c'est vrai qu'on est passé un petit peu pour des fléaux sur ce coup.
C'est pitoyable. Moi, c'est scandaleux.
Je pense que c'est nos différents gouvernants actuels et passés, donc en particulier avec François Hollande, qui a dénaturé la fonction présidentielle pour la rabaisser.
Il y en a qui ont déjà parlé de ça avec Nicolas Sarkozy aussi, hein, tu sais.
Tout à fait, oui.
Voilà. Donc, oui, non, mais tu aurais pu, hein, tu peux.
Donc il est clair que c'est absolument inadmissible par rapport à notre constitution du 4 octobre 1958 d'avoir des choses comme ça, parce que De Gaulle l'avait précisé et reprécisé, c'est avant tout un régime présidentiel. C'est le président qui est au-dessus des partis. Il n'a pas à rentrer dans l'arène et à se faire critiquer comme il a été. D'autant plus qu'en plus de ça, il est président de la communauté européenne.
Oui. Non, mais qu'il soit critiqué, c'est le jeu. Je veux dire, c'est le jeu, mais qu'on reste chez nous, quoi. Je veux dire.
Tout à fait.
Voilà, Christian, ton avis?
Bon, je pense qu'à un moment donné, on récolte ce qu'on sème. Quand Macron dit qu'il emmerde les Français.
Non, il emmerde ceux qui ne veulent pas. C'est pas pareil.
Ce n'est pas digne d'un président de la République.
C'est pas pareil.
Donc là, ce qu'il a pris dans les gencives l'autre jour, il l'a mérité.
Mais c'est pas le sujet.
Il y a d'autres tribunes pour
alors,
le faire.
François-Xavier Bellamy, François-Xavier Bellamy, qu'on connaît tous, qui est un homme respectueux, qui est un homme de débat, qui est un homme consensuel. Quand il a dit ce qu'il a dit, il a dit posément. Hein.
Oui. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas ce qui a été dit. Le sujet, c'est le lieu.
C'est
comme si moi, demain, tu es conseiller départemental, d'accord?
Oui.
Tu as quelqu'un de l'opposition qui débarque au conseil départemental, qui est élu comme toi, et qui t'attaque sur ta mairie. Tu vas lui dire, t'es gentil, mais là...
Parce que tu crois que ça arrive pas?
Tu lui diras, t'es gentil, là, on est au conseil départemental, si tu veux qu'on discute de la mairie, tu viens à la mairie, on va en parler.
Chacun son avis.
Je sais pas ce que...
Mais complètement, c'est gratuit, la digression comme ça, ça avilit les personnes qui l'ont dit.
elles ont peut-être raison de dire sur les faits.
Oui, on ne parle pas, on parle pas du fond, on parle de la forme, hein, on est bien d'accord.
Mais dans ce contexte-là, et notamment avec la présidence européenne, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, d'autre manière, aujourd'hui, le président Macron, il a déjà fait son programme. Il est plutôt intéressant, très sincèrement, mais bien au-delà de nos intérêts personnels, c'est au niveau de l'Europe, au niveau même, je dirais même humanitaire, social. Eh bien oui, c'est ça qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, ces gens-là, qui plutôt que de faire de la digression, ils feraient mieux d'apporter des éléments de réponse pour peut-être corriger, étayer, supprimer, je ne sais pas, le programme d'Emmanuel Macron sur la scène européenne,
Et pas nationale.
Bien sûr. Et à un moment donné, on veut l'identité nationale. Et on refuse en partie l'identité européenne, ça devient très compliqué. Et pourtant, il va falloir arriver à corroborer les deux éléments si on veut demain exister en tant que Français et en tant qu'Européen pour être une force économique, politique sur la scène internationale. Et Emmanuel Macron a démontré depuis très longtemps qu'il est extrêmement à l'aise à l'international. Il est très à l'aise, ce garçon.
C'est Don Quichotte, les moulins à vent, il connaît.
Tu as raison.
Aucune influence pratique.
Aucune.
Tu as raison. Je parle plus du personnage que sur les résultats. Je suis bien d'accord. C'est un enchanteur. On est d'accord. Mais pour le coup, je suis désolé, on a parlé de François Hollande. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura plus de résultats du côté avec Macron qu'avec Hollande. Hollande a fait ce qu'il a pu, probablement. Je ne veux pas non plus l'écraser. Mais Emmanuel Macron, dans son contexte, il se débrouille assez bien. Il est reprochable à plusieurs titres. Mais on va voir demain comment ça se passe. Les Français vont, effectivement, dans quelques mois, vont se prononcer. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages...
C'est quand même toujours très étonnant, ça. C'est cette haine viscérale d'une certaine partie de la population envers Macron. Et c'est toujours... alors, on dit à chaque fois, oui, mais c'est les sondages. Oui, c'est les sondages, effectivement, à un moment T. Mais depuis le mois d'août, il ne bouge pas. Voilà, c'est le seul qui reste toujours là où il est. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a une animosité contre lui en ce moment. Il est noté là, le dernier, 17-18 janvier. Voilà, il est pointé à 25,5, Marine Le Pen à 18, Valérie Pécresse à 16, Éric Zemmour à 12, Mélenchon à 10, Jadot 5,5, Taubira qui arrive dans le jeu à 3, Hidalgo à 3 et Roussel à 2. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable de voir, et tu as peut-être trouvé une réponse à ça, à cette interrogation. Pourquoi tant de haine et pourquoi à l'arrivée toujours en tête ?
Les sondages, on peut y porter l'importance qu'on y veut.
Les sondages, ouais, mais
c'est les élections qui vont faire.
Bah oui,
non, c'est les élections. Et on verra si Macron il est à 25%. À mon avis, il sera bien plus bas que ça.
Très, très sincèrement, moi, ce discours, il me gêne un tout petit peu pour la bonne raison. Peut-être. C'est que sur le pourcentage, on va être d'accord tous les deux, 22, 23, 28, oui. Mais il sera toujours en tête.
Pas sûr.
Enfin, je sais pas.
Ça, on verra, mais
on verra, c'est les électeurs qui le diront.
Tout à fait.
C'est pas nous.
On peut dire ce qu'on veut, là. J'ai pas la boule de cristal, mais.
Il y a un précédent en 2002, le 24 avril, qui consistait à mettre M. Jospin en favori.
Bien sûr.
Et puis, Jospin a été battu. Moi, je pense qu'il y a un tel degré d'animosité vis-à-vis de Macron en ce moment qu'il n'est pas possible qu'il puisse transcender les élections et survoler tout ça. C'est pas possible.
On met. Marine Le Pen devant Valérie Pécresse, c'est impossible.
Ah, tu ne crois pas non plus, ça ?
Non plus. Pécresse, elle est bien plus haute que ça, et Le Pen, elle est bien plus haute que ça. Mais c'est les électeurs qui décideront, c'est pas nous.